Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Je voudrais poursuivre le sujet que nous avons abordé la semaine dernière. Pour ces fêtes de fin d'année, j'aurais peut-être aimé partager un autre sujet, mais je crois que ce qui est important quand même, c'est que notre communion avec Dieu soit en bon état. Vous êtes d'accord? Dans l'épître de Jacques, à la fin, on va voir plusieurs versets. Je vous encourage à les noter et pour les revoir dans votre culte personnel. Je pense que beaucoup se privent d'édification personnelle parce qu'ils ne prennent pas le temps de noter ou de mettre un signet, je ne sais pas, dans les endroits où on fait certaines lectures. Vous savez, la Bible, vous comptez beaucoup sur les pasteurs, sur les autres. Vous aimez que les autres vous édifient? Est-ce que vous aimez édifier les autres? Eh bien oui, est-ce que c'est écrit « édifiez-vous les uns les autres » Vous aimez que vos serviteurs vous édifient également? Ben oui, pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité. Mais est-ce qu'il est dit aussi « édifiez-vous vous-même » Est-ce que c'est écrit? Oui. Donc, un des moyens de s'édifier soi-même, c'est peut-être de réfléchir à des textes qu'on cite, mais qu'on ne développe pas. Regardez dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, il est parlé de si quelqu'un il est malade, s'il souffre. Vous voyez qu'il prie. Verset 13, si quelqu'un est dans la souffrance. Est-ce que ça peut arriver d'être dans la souffrance? Eh bien oui. Qu'il prie. Pourquoi? Parce qu'il faut... Mais prier, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Et non. Voilà, c'est ce que j'attendais. Ça en fait partie, vous avez raison. Mais il n'est pas dit qu'il parle à Dieu. Prier, ça veut dire aussi écouter Dieu. Bien sûr que tout le monde répondra qu'il parle à Dieu. Mais il n'est pas dit si quelqu'un est dans la souffrance... qu'il parle à Dieu, bien sûr qu'il parlera à Dieu, mais il va écouter Dieu. Parce que quand on souffre, on a peut-être besoin d'entendre Dieu nous parler. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques? Vous voyez, on est dans la souffrance une fois, quelques jours après, par rapport à une expérience, on peut être dans la joie, tout ça c'est normal. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, s'il a commis des péchés, il y sera pardonné, vous voyez, ça peut arriver. Verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est facile ça? Est-ce que c'est facile de confesser les péchés aux autres? C'est plus facile pour les certains que pour d'autres, mais on devrait le faire. Priez les uns pour les autres, pourquoi? Afin que vous soyez guéris. La prière... agissante du chrétien a une grande efficacité. C'est comme ça dans votre Bible? C'est comment dans votre Bible? La prière agissante du juste, pas du chrétien. Il y a des chrétiens qui ont des prières qui ne sont pas agissantes du tout. Mais celui qui est juste, sa prière est efficace. Regardez un petit peu plus loin, au chapitre, on reprend ce qu'on a vu la dernière fois. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, il y a 17 commandements, à peu près, enfin, exhortations, pour que nos prières soient exaucées. Ça termine avec le comportement que les femmes doivent avoir envers leur mari, et également comment les maris doivent se comporter à l'égard de leur femme. C'est un sujet important, ça? Est-ce que ça arrive de voir des divorces dans les églises? Pourquoi il y a des divorces dans les églises? C'est une question, ce n'est pas des questions bêtes, c'est des questions sérieuses. Pourquoi il y a des divorces dans les églises? Sérieusement, ça fait mal. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage? Alors qu'on devrait quand même, si on est tous les deux au Seigneur, comme le Seigneur l'avait voulu, que c'était la volonté de Dieu, qu'il y ait du pardon, il y ait du dialogue, etc., etc., c'est qu'on n'a pas respecté. Il ne faut pas chercher midi à 14h. S'il y a des divorces, c'est qu'on n'a pas obéi. C'est clair, c'est obligé. Parce que quand on se marie normalement avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Mais moi, il me semble. Marie, verset 7, « Montrez à votre jour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. » Comme avec un sexe plus faible, honorez-la. Est-ce que j'honore ma femme? Est-ce que j'honore mon mari? Voyez? Comme devant aussi héritier, héritez avec vous de la grâce de Dieu, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc on a lu dans Jacques que la prière du juste est efficace, que si certaines choses ne sont pas vécues, eh bien il va y avoir des obstacles. Car le verset 12 est catégorique, verset 11, Il parle des chrétiens, qu'ils préservent sa langue du mal, verset 10, célèbrent des paroles trompeuses, qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors mes frères et sœurs, il faut que nous soyons soucieux de savoir dans quel cas de figure nous sommes. Parce qu'on peut faire le mal et ne pas s'en rendre compte. C'est écrit, ils ne savent pas qu'ils font le mal. La première parole de Jésus sur la croix, vous savez qu'est-ce qu'elle est ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grâce ! Le Seigneur, il aurait pu faire une autre prière, moi je vous le dis. Il aurait pu devancer son jugement de 2000 ans. Et il a choisi de pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sincèrement, mes frères et sœurs, je crois que nous, les chrétiens, nous devons nous poser des questions par rapport à la prière. Est-ce que je pratique la justice ? Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique que la justice. Il obéit à Dieu. Jésus revient chercher ceux qui obéissent. Il ne revient pas chercher les chrétiens qui attendent Jésus. Les vierges folles, est-ce qu'elles attendent le maître ? Est-ce qu'elles l'attendent ? Oui, elles l'attendent. Mais elles ne sont pas prêtes. Alors, en préparant ce message, j'ai plein de versets que j'aimerais partager avec vous. J'ai pensé à un texte dans la Genèse, on va voir. La première fois, il nous est parlé de la prière. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît ? C'est dans le chapitre 4, à la fin du verset 26. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous regardiez. C'est écrit, vous savez que tout ce qui a été écrit est utile. Tout ce qui a été écrit est intelligent. Tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre instruction. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Il y a des choses qu'on ne sait pas, ce n'est pas grave. On a chanté tout à l'heure un cantique qu'on chantera au ciel. Est-ce qu'on le chantera en français ? Est-ce que c'est important de savoir si vous chanterez en français au ciel ? Hein ? Moi, je vous le dis, on chantera en occitan. Voilà, parce que je connais l'occitan. Genèse chapitre 4, verset 26. Regardez la fin du verset 26. Regardez bien, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit a voulu que ça soit écrit. Ce n'était pas verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Au chapitre 5, il y a toute une généalogie d'hommes qui ont amené la naissance de Noé. Et à partir du chapitre 6, il y a toute l'histoire de Noé et du déluge. Je vais vous poser une question. Les gens ont commencé à prier. C'est bien, oui ou non ? Les gens commencèrent à prier. Gloire à Dieu, les gens ont commencé à vouloir avoir une communion avec Dieu. Je vais vous poser une question. À quoi ça leur a servi ? Sérieusement, à rien. Ils ont prié pour rien, puisqu'ils ont invoqué Dieu et qu'il n'y a personne à part Noé et sa famille qui ont été sauvés. Mes frères et sœurs, la prière, nous devrions vraiment nous poser des questions. Dans l'enseignement sur la prière, Jésus dit qu'une des marques de la prière, c'est « Seigneur, mais délivre-nous du mal ». Sincèrement, je nous pose la question, est-ce que nous savons quand nous faisons le mal ? Est-ce que nous le savons ? Est-ce que nous le réalisons ? La Bible nous demande de nous armer de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Tout à l'heure, nous parlons qu'il y a des jours de grands combats, mais il y a des mauvais jours. Et la Bible dit, afin de résister contre toutes les ruses du diable. Le diable a des ruses, des techniques, des stratagèmes, tout ce que vous voudrez pour faire en sorte que nous ne nous rendions même pas compte lorsque nous faisons le mal, à tel point que nous sommes capables de voir, mais écoutez mes frères, et vous le savez, nous sommes capables de voir la paille dans l'œil d'un frère et de ne pas voir notre propre proutre dans notre œil. Ça va jusque-là, cette affaire d'aveuglement. Prier, ça doit être une bénédiction. Les églises doivent être des maisons de prière. Ma maison sera une maison de prière. Nous devrions prier. On a envie, on n'a pas envie, c'est pas écrit « prie quand tu as envie » ou « prie quand... » Non, la Bible dit « priez ». prier en tout temps, parce que Dieu veut nous faire grâce, parce que Dieu veut que nous obtenions miséricorde, parce que Dieu veut que nous entendions sa voix, comme pendant la Sainte Cène, où cette pensée nous a été communiquée, tiens, mais au fait, à quelle table, parce que la Sainte Cène s'était très bien expliquée, à quelle table je m'assois, au fait. Vous ne croyez pas qu'il y avait un indice sur ce qui peut faire obstacle à la prière ce matin ? Lorsque Dieu m'accorde cette immense faveur de pouvoir prendre son repas, mais Seigneur, à quelle table je m'assois ? Quelle est la nourriture que je prends ? Est-ce que c'est la tienne, comme c'est le cas maintenant ? Ou est-ce que c'est le monde qui, tout le long de la semaine, m'abreuve, me nourrit ? Et ce qui faisait partie de l'exhortation de notre jeune frère Vincent, lorsqu'il dit un peu de relâchement, c'est sur mes notes. Un peu de relâchement, un peu de légèreté, un peu de ceci, un peu de cela, et la pauvreté te surprendra. Un peu. Et nous ne nous rendons pas compte parce que nous avons fait des expériences plus belles les unes que les autres. Et de temps en temps, nous faisons une expérience qui nous fait du bien, une belle expérience. Et je pensais en préparant ça, parce que je pensais à Samson en parlant des petites choses. Samson qui, quand il a commencé son ministère, il a commencé à flirter avec le monde. On le voit à la frontière. Il est là, dans une vigne. Il n'a rien à y faire. Et bien sûr, il est quand même rempli du Saint-Esprit. Et il va déchirer un lion. Sans armes, il va déchirer un lion avec ses mains. Voilà. Et quelques temps après, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, un petit bout de femme va détruire sa vie. Elle va l'endormir sur ses genoux. Il s'est relâché. Et cet homme qui aurait dû être une source de bénédiction pour Israël est devenu comme un animal qui tournait dans une cage, dans une prison. Parce qu'il n'a pas veillé. Et mes frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez cette prédication. Je dois savoir. Le Saint-Esprit ne peut pas ne pas m'éclairer. Si je suis honnête, je dois savoir si je fais le mal, si je fais du mal à quelqu'un. Vous avez vu le nombre de fois dans les proverbes où il est parlé du juste et du méchant. Je vais les compter. Cette semaine, je vais le relire et je vais compter le nombre. C'est des dizaines et des dizaines de fois. Où Dieu s'adresse aux chrétiens qui obéissent, ils pratiquent la justice. J'ai souvent parlé, quand la Bible dit, mais quand tu entres dans la maison de Dieu, n'entre pas pour offrir le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés, c'est quoi ? Je l'ai dit, c'est le gars, il sert Dieu, mais il n'obéit pas. Si je prêche, je sers Dieu. Le sacrifice des insensés, ça me correspondrait. Si je prêche la parole, j'obéis. Enfin, j'obéis. Non, je sers Dieu. Et si à la maison, je n'obéis pas. Ça s'appelle le sacrifice des insensés. Et que je ne m'imagine pas que Dieu va exaucer mes prières si je joue la comédie. Mais je peux jouer la comédie sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Lorsque Saul de Tarse, Paul parle de ce qu'il était, il dit, mais j'agissais par ignorance. Bon, mais l'ignorance, ça va un moment. Je comprends qu'il soit écrit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais enfin, bon, l'ignorance, mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ça va un moment. Que je ne me rende pas compte que je me suis trompé de route, que je ne m'en rende pas compte 5 minutes. Mais si au bout d'un quart d'heure, il me faut 1 heure pour me rendre compte que je me suis trompé de sortie. Ça vous est déjà arrivé de vous tromper de sortie ? À qui c'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé ? Moi, une fois, on rentrait avec M. Ollet, on rentrait d'une convention. Et tout d'un coup, M. Ollet, il me dit, mais M. Gau, il y a des avions sur la route de Fréjus à Toulouse. On était à Perpignan. On avait oublié de tourner à Béziers. On a fait, je ne sais pas combien, entre Béziers et Perpignan, il y a combien ? 52 kilomètres au moins. Ouais. Au bout de 50 kilomètres, je me suis rendu compte que je m'étais... j'ai un problème. 50 kilomètres pour me rendre compte que je... On parlait. Bon, en voiture, ce n'est pas grave, ça nous a fait faire une petite blouque. On a parlé un peu plus. Mais mes frères et sœurs, quand spirituellement... On ne se rend pas compte qu'on fait le mal. Vous savez, la Bible dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Alors je voudrais prendre un témoignage, je voudrais faire les choses, je n'aurai pas le temps de tout partager avec vous, mais je vous demande, mes frères et sœurs, d'une manière consciencieuse, de le faire chez vous. Vous pouvez vous édifier vous-même, sur votre très sainte foi. Ne me dites pas, ah mais moi j'y comprends rien, j'écoute, il n'y a qu'à l'église, je comprends. Non, vous pouvez vous édifier vous-même, c'est écrit. Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul exprime son ministère et à un moment donné, il va parler de certaines personnes qu'il a dû mettre en discipline. Pourquoi ? C'est intéressant, c'est très intéressant. Dans une église, il faut qu'il y ait quoi ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans une église ? Il faut qu'il y ait de l'ordre, qu'est-ce qu'il faut encore ? De la bienséance, de la discipline, la paix. Est-ce que c'est important la paix ? Oui. Ce qui devrait caractériser une église, c'est la paix, la grâce et la paix. Je ne suis peut-être pas au top, mais je sais que la grâce est là de Dieu. La paix est là, je vais la procurer à mon frère va me la procurer, etc. Mais il y a des choses qui doivent être faites dans une église. Et Paul, il parle à un jeune pasteur, 1 Timothée chapitre 1er, verset 17. Regardez bien, c'est une exhortation à un jeune pasteur. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Vous savez, il y a des bons combats et il y a des mauvais combats. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, quand on perd la foi, on perd la conscience. Quand on perd la conscience, on perd la foi. Ça marche à peu près ensemble. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, il les a remis dans le monde. Est-ce qu'il faut le faire ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Alexandre ? Tiens, on va le lire. 2 Timothée 4, 14. C'est important de savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que c'est bien de parler, mais... Qu'est-ce qu'il a fait ? 2 Timothée 4, 14. Il en parle, je pense que Dieu a voulu que nous le sachions. Il y a des choses qu'il faut qu'on les sache, il y a des choses c'est pas important, mais si c'est écrit, c'est important. 2 Timothée 4, verset 9. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Vous voyez ? Verset 14. « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. » Paul, vous avez lu l'histoire de Paul, son témoignage, son ministère. C'est un homme qui ne se plaignait jamais. Au contraire, quand il était dans l'épreuve, ben, il chantait, il louait. Enfin, c'est hallucinant de voir le comportement de Paul. Mais il a dû réagir pour protéger l'Église, pour protéger les frères, les sœurs, nos enfants, nos ados. Les âmes qui découvrent l'Évangile, ils n'ont pas besoin de voir le cirque dans l'Église. Les gens qui découvrent une Église doivent voir la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Même s'il y a un problème, ce n'est pas grave. Ils doivent voir que la présence du Saint-Esprit agit. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Et nous devrions nous poser la question, mais est-ce que moi aussi, dans mes propos, alors des fois on n'ose pas le dire. C'est pas évident cette affaire. Mais est-ce que Dieu peut nous aider déjà qu'il illumine les yeux de notre cœur ? Est-ce que vous priez ? Est-ce que nous prions ? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Éclaire-moi. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Peut-être que vous n'en demandez pas de la sagesse parce que vous en êtes bardé. Mais imaginez que vous vous trompiez. C'est quand la dernière fois où nous avons demandé de la sagesse à Dieu, au fait ? Répondez, pas à haute voix. Répondez-vous à vous-même sérieusement. Est-ce que vous pensez que c'est bien de demander à Dieu de la sagesse, de demander à Dieu du discernement ? Il est demandé d'avoir du discernement ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Est-ce qu'on peut avoir des dons ? Ben oui, pour avoir du discernement. Pour pouvoir justement, dans l'Église, être utile. Vous vous rendez compte que j'ai entendu, je vous assure, ça me fait de la peine ce que je vais vous dire, des gens qui me disent, moi je ne vais plus à l'église parce que quand je vais à l'église, je ressors plus découragé que quand je rentre. Et je sais pas, si j'avais entendu ça une fois, je serais content. Qu'une fois. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Quand je vais à l'église, ça me décourage. Les gens sont tous négatifs. Vous avez jamais entendu ça? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? On n'est pas dans le procès et dans la culpabilité, surtout pas. On est dans l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité de s'adapter. C'est ça que ça veut dire l'intelligence. À de nouvelles situations. Seigneur, cette année termine. Moi, je n'ai pas envie, quand je me présenterai devant toi, je n'ai pas envie d'entendre, mais tu priais pour rien. Tu as lu, ils ont commencé à m'invoquer. C'est magnifique que ça soit écrit dans la Genèse. C'est là que l'on commençait à invoquer l'Éternel. Quelle grâce, cette communion qui se met en place. Et ça ne sert à rien. La prière du juste. Alors, je dois savoir, est-ce que je fais des choses qui sont mal? J'écouterai ce que dit Dieu? Oui. Alors, pour aider, c'est une introduction, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas être long, parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous, nous pouvons nous tenir devant le Seigneur et demander de l'aide à des amis. Moi, j'ai des frères, des sœurs dans l'église, et je bénis Dieu qui ont su me dire, Monsieur Gros, il y a ça, vous devriez pas faire vous devriez pas dire ça de l'estrade, c'est pas bien. La première fois que ma femme m'a dit ça, enfin, elle me l'a dit plusieurs fois. Alors moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais si ça vient de toi, si ça vient de toi Seigneur, que d'autres personnes me le disent. Et dans la semaine, Monsieur Oulé, il est venu me trouver. Bon, Monsieur Oulé, il a toujours des tacs. Ouais. Pour me le dire. Puis il y a monsieur de Dieu qui est arrivé. Et j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour les frères. Pour les conjoints. Qui m'ont montré que je faisais mal. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. On va partir du psaume 50. J'aurais dû commencer directement avec ça. J'ai fait cette introduction, cette longue introduction, parce qu'elle était nécessaire. Dans le psaume 50, nous voyons une chose. Je vous demande de le méditer, ce psaume. Et de comprendre, on ne va pas tout expliquer, mais est-ce que vraiment on va comprendre l'enseignement de ce psaume en partie? Qu'est-ce qu'on voit dans ce psaume? Psaume 50. On voit que Dieu parle et qu'il veut parler. Alléluia. Oui. Dieu parle par sa parole. Dieu parle. Je ne sais pas comment vous lisez les psaumes, mais je vous assure, ça vaut la peine de lire. Moi, je lis. J'ai lu peut-être 30 ou 40 chapitres. Et j'en ai médité deux pendant 2 heures ou 3. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est bien que vous sachiez aussi comment fonctionne un pasteur. Mais quand vous vous arrêtez, psaume 50, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Voilà. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant. Verset 7. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Je le relis franchement. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, on pourrait mettre l'Église, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches, etc. Verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, donc le méchant, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ce ne sont pas les pécheurs. Les pécheurs, ce sont les inconvertis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Les méchants, dans la Bible, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion. La preuve, c'est qu'il est dit que le méchant retourne à Dieu. Dieu dit aux méchantes, quoi donc, tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ta part est avec les adultères. Bon, peut-être on n'en est pas là, mais on y reviendra. Tu livres ta bouche au mal. Ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et regardez la conséquence. Et je me suis tu. Je me suis tu. Alors que tout le texte nous montre que Dieu veut parler. Tu t'es imaginé que je te ressemblais? Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. On veille. C'est ce qu'on veut faire. On est là, on ne veut pas une prédication de plus parce que c'est intéressant. Non. Seigneur, j'ai des choses que je dois corriger, mais tu vas m'aider. À celui qui veille sur sa voie, il n'y aura pas de problème. Donc la question que je nous pose ce matin, est-ce que je veux veiller sur ma voie ou est-ce que je suis là par superstition? La superstition, monsieur Gomes, c'était quand on était catholique ou quand on était dans une autre religion. Mes frères et sœurs, il y a plein de chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils viennent à l'église, eh bien, ils doivent être du côté de Dieu. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça, c'est de la superstition. Je veux voir le salut, je ne veux pas aller en enfer. Alors, on revient au verset 21, la fin du verset 21. Mes frères et sœurs, en vérité, la prédication, elle commence là. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alors, répondez au Seigneur, pas à moi, c'est pas utile, mais répondez au Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord, vous et moi, pour que Dieu nous reprenne et qu'il mette tout sous nos yeux? Est-ce que vous pensez qu'il peut bien le faire, le Seigneur? Est-ce que vous pensez qu'il le fera bien? Jeudi soir, nous avons partagé de Jésus, quand il s'est approché des onze. Il s'est approché des onze. Regardez bien comment Thomas a été repris. Thomas, qui n'était pas là la première fois, il n'est revenu que 8 jours après. Quand les 10 lui ont dit que Jésus était ressuscité, il a réagi de manière incrédule. Je ne dis pas dans le doute. Il était en train de basculer dans l'incrédulité. Oui, si je ne vois pas la marque dans ses mains, je ne croirai pas, etc. Et Jésus rentre 8 jours après. Il était à sa place, Thomas. Il était à sa place. Il a perdu du temps, comme nous. Il a perdu une semaine. Soyons honnêtes, est-ce qu'on n'a pas, nous, perdu des mois ou des années? Sérieusement, bon, moi, je suis sûr que moi, le premier, j'ai perdu des années, j'en suis sûr. Le Seigneur arrive, il arrive avec sa pédagogie, sa puissance, sa tendresse, son amour, sa bonté. Et il leur dit, « Ah, Thomas, qu'est-ce que tu as dit la semaine dernière? Hein, qu'est-ce que tu as dit? Tu ne fais pas le malin maintenant. » Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça? Ben oui, il aurait pu. Comme nous, on sait si bien faire. La paix soit avec vous. Ah, Thomas, avance ta main. Et mets-la dans mon côté. Ne deviens pas incrédule. Il l'a repris, il a tout mis sous ses yeux. Et Thomas a réalisé que Jésus était Dieu. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et l'histoire nous raconte que Thomas est devenu un homme de Dieu excellent jusqu'en Inde. Mes frères, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Mais il faut donner à Dieu l'occasion d'avoir des rendez-vous avec lui pour que l'on puisse dire, voilà, je vais relire les psaumes, je vais relire les proverbes, je vais relire le sermon sur la montagne. Je vais le relire, je vais le méditer. Il faut que je sache s'il y a quelque chose qui est mal dans ma vie. Combien de chrétiens se parlent mal? Combien de chrétiens parlent mal à leurs enfants? Combien d'enfants parlent mal à leurs parents? Ils s'envoient promener. Ouais, mais si tu étais à ma place, en plus on justifie la désobéissance. Vous savez qu'avec des paroles, on peut vraiment faire du mal. Moi, je pense souvent aux contemporains de Jérémie. Il y avait des chrétiens là-dedans. Tuons-le avec la langue. Le mal qu'on peut faire en parlant à quelqu'un. Pour peu que l'on sache manier la langue comme il faut, le mal qu'on peut faire. Mais on devrait pouvoir se parler les uns les autres. Oui ou non? Est-ce que vous... Je le dis, mais parce que quand même, on est des frères et des sœurs. On doit s'aimer les uns les autres, veiller les uns sur les autres, se supporter. Se supporter, c'est pas dire... Non, se supporter, ça veut dire je le porte avec. On doit s'aimer les uns les autres et se dire les choses. Oui, Alexandre avait fait du mal. Il a dû lui demander de se retirer de l'Église. Il l'a livré à Satan. Il a dit, mais sors de l'Église. Ça ne veut pas dire que les gens qu'on met en discipline, on ne les aime pas. Quand Jésus dit, mais qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain, est-ce qu'il faut aimer les païens? Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens envers qui on doit exercer de la discipline. Mais on leur fait comprendre qu'ils ne sont plus des frères. Mes frères et sœurs, si je fais le mal, il faut que je le sache. Parce que la face du Seigneur, elle est contre ceux qui font le mal. Est-ce que je fais des choses qui sont mal? Est-ce que je pratique des choses qui sont mal? Est-ce que j'aime le monde? Oh, ben non, si je suis là, vous comprenez bien que si je suis là, c'est que j'aime Dieu. Oui, s'il y a du vrai. Mais la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'est pas en lui. Comment cet homme-là pourra-t-il être éclairé si le Saint-Esprit est sorti? Vous allez me dire, non, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Oui, d'accord, mais vous savez, dans une grande maison, s'il y a une bougie à la cave fermée, ça ne va pas éclairer beaucoup les chambres du haut, moi je vous le dis. Il faut être sérieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que, tiens, un voleur, tu vois un voleur, est-ce qu'on peut voler Dieu? Mais monsieur Gou, on ne peut pas voler Dieu. Vous croyez qu'on peut voler Dieu, au fait? C'est écrit ou c'est pas écrit dans la Bible? Parce que le problème, c'est pas ce que je dis moi. Mais est-ce que la Bible parle qu'on peut frauder Dieu? Vous avez vu ce que Dieu dit sur les gens qui le volent? Lisez le prophète Malachie. Tiens, mais je vais le relire. Vous avez vu comment le peuple de Dieu s'est éloigné du Seigneur? Ils sont dans une désobéissance totale. Et quand Dieu leur parle, et je vous ai aimé, et vous avez vu leur réaction? Et en quoi tu nous as aimés? Vous avez lu ce livre? Mes frères et sœurs, sérieusement, je vous demande de le faire. Vous demandez à Dieu qui vous parle? Alors, je vous le dis solennellement. Prenez le livre de Malachie, il n'y a que quatre chapitres, trois, attendez, oui, je le connais. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il y a quatre chapitres. C'est un chapitre, mais je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous demande de lire ce livre. De le méditer. Dieu pose des questions, ce sont des questions intelligentes. Et on voit bien qu'il y a un problème. Le peuple de Dieu s'autorise en plus. Vous savez, quand on se permet de contester avec Dieu, si vous en êtes là, vous n'allez pas bien du tout. Moi, je vous le dis avec beaucoup de cœur. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais raide quand je disais les choses. Vous avez remarqué que je fais des progrès. Vous avez remarqué? Non? Pas tous? Bon. J'en ferai. Je vous promets que j'en ferai. Mais ils sont dans un état... Ils sont vraiment... Vous voyez, regardez par exemple Malachie, chapitre 3, verset 7. Regardez Cette tendresse du Seigneur pour les aider. Il va les aider, mais ça a pris du temps. Hein, parce qu'il a fallu qu'il les entreprenne sur plusieurs sujets. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand on nous fait une remarque, il ne faut pas que vous vous braquiez. Dieu peut, dans la foulée, vous éclairer sur un deuxième problème. Là, il est au quatrième problème. Malachie, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Bon, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien ou c'est pas bien? Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Ben c'est bien, revenez à moi et je reviendrai. Écoutez, on ne peut pas demander mieux. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous voyez, de suite. Dieu vous dit, revenez. Prenez compte, si moi je vous dis de la part de Dieu, ne volez pas Dieu. Et que vous répondiez, non mais pour qui se prend? Et lui, il la donne sa dîme. Vous voyez, la réaction vachement intelligente. Mes frères et sœurs, si le Seigneur vous interpelle, c'est peut-être pour une personne ou deux. Vous êtes léger avec les choses du Seigneur, l'argent du Seigneur. Oh, mais Dieu n'a pas besoin d'argent pour faire son œuvre, il est tout puissant. Eh bien, prouvez-moi-le d'abord. C'est vrai qu'il pourrait. Mais Dieu a décidé de l'utiliser. C'est comme ça. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et en plus, il recommence. Et en quoi t'avons-nous trompé? Je ne sais pas l'intonation qu'il a utilisée, mais en fait, ça a l'air de partir mal. Dans la dîme. Verset 13. Regardez bien. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Je ne sais pas comment Malachie a parlé lorsqu'il l'a dit. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Il n'y en a pas des chrétiens qui disent, ouais, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de ci? C'est ça, c'est exactement pareil. C'est dit différemment. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne parlez pas comme ça. Demandez pardon, Seigneur, je te demande pardon, ton intelligence n'a pas de limite. C'est écrit ça? Ta puissance n'a pas de limite. C'est écrit? Oui. Alors regardez, il a fallu que Dieu les entreprenne sur plein de sujets. Et puis certains ont réagi. Verset 16, regardez. Alors, regardez bien comment ça s'est passé. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, dans le groupe, vous voyez qu'il y avait des obéis, et bien, il y avait des gens quand même qui avaient la crainte de Dieu. Vous voyez, ça semble paradoxal, mais comme on peut se laisser entraîner par des gens qui désobéissent, par des Alexandres qui font du mal et qui, excusez-moi le mot, mais enfin, c'est le mot que je peux utiliser, qui pourrissent l'Église. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Vous pouvez dire merci Seigneur. Il ne prie pas. Là il parle, mais il parle entre eux. Ils ne parlent pas à Dieu, ils se parlent entre eux. Vous savez que Dieu nous écoute quand nous parlons entre nous? Quand vous parlez à la maison? Quand vous parlez avec des frères, avec des sœurs? Est-ce que vous savez que Dieu vous écoute? Est-ce que c'est important? Eh bien oui. Et écoutez, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Il commence à les exaucer. Ils ne sont même pas en train de prier. Comme quoi, voyez que Dieu réagit vite, que son nom soit béni. Ah, mais c'est impressionnant dans la Bible, quand il est dit au même instant. Nous, on dit aux gens, attention, hein, on te donne 6 mois de... Des fois, il faut le faire quand même. Mais ils n'ont pas commencé à prier. Ils sont là, ils sont soucieux. Mais c'est vrai, on a mal parlé. T'as vu comment on a répondu? Malachie nous l'a dit. Peut-être que Malachie, il avait plus de pédagogie que moi. Mais ça fait rien. Quelle que soit la façon dont Dieu va me parler, que je puisse le considérer. Dieu va me parler avec quelqu'un qui est plus tendre. Dieu va me parler avec quelqu'un qui est plus ferme. Je ne parle pas dur. La dureté, c'est pas bien. Mais il y a des gens qui sont plus fermes, il y a des gens qui sont plus tendres. Qu'importe que Dieu me dise ce qu'il a à me dire. Qu'il me le dise. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et Dieu va... Vous avez vu? Regardez, un livre de souvenirs fut écrit. Il y a des choses qui sont écrites dans le ciel. On va avoir des surprises au ciel, la quantité de bouquins qu'il y a. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux... qui craignent l'Éternel, et qui honorent son nom. Regardez comment Dieu réagit, c'est quand même extraordinaire, c'est comme avec Thomas ou avec les autres. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence. C'est pas ça qu'on veut voir? Entre qui? Entre le chrétien le juste et le chrétien méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez-moi mes frères et sœurs. Vous êtes tous d'accord pour accepter l'idée qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Moi, si vous saviez le nombre de fois, sincèrement, je le dis, et je la remercie, le nombre de fois où ma femme m'a dit, mais tu vois pas ça, Gérard? Tu le vois pas? Mais t'as pas vu? Mais il y a des choses qu'on voit pas. Oui ou non? Mais combien de fois ça... Ne lui dites pas. Combien de fois ça m'a énervé. Quand elle rentre dans mon bureau, elle me dit, je peux te parler? Tu es prêt à écouter ce que j'ai à te dire? Oui. Je le dis avec joie. Combien de fois elle m'a énervé? Et pourtant, combien ça m'a aidé? Vous croyez que je n'ai pas des progrès à faire? Mes frères et sœurs, est-ce que... Moi, je bénis Dieu pour les épouses qui savent nous dire les choses. Ou les enfants, ou les frères et sœurs. Je me rappelle une fois, madame, elle m'avait vu, elle m'a dit, « Monsieur Gault, vous êtes fatigué. » Alors que je croyais qu'elle allait me plaindre, vous voyez. « Monsieur Gault, vous êtes fatigué. » Un pasteur qui est fatigué, il fatigue l'Église. Alors reposez-vous. Merci. Mais est-ce que c'est vrai, au fait, qu'un pasteur fatigué, il peut fatiguer l'Église? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une grâce qu'elle me l'a dit? Et je me suis reposé. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai pas envie, moi, de fatiguer l'Église. Je vais te reprendre. Mais il faut comprendre une chose, que si Dieu vous reprend, il peut vous parler par un songe, par sa parole, par un cantique, par une prédication, mais il peut aussi utiliser des gens. Est-ce que vous acceptez que Dieu utilise des gens pour vous parler? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez que Dieu utilise des enfants, des conjoints et même des inconvertis? Non, mais s'il est inconverti, il est dans les ténèbres. Vous ne croyez pas que ça valait la peine que Jéthro, que Moïse écoute un certain Jéthro? En plus, quand on lit la suite des siècles après, on apprend quand même que ce conseil venait de Dieu. Voyez? Est-ce que ça vaut la peine que Dieu me dise, mais Gérard, t'es un paresseux? Paresseux, moi? Oui, pour les choses de Dieu, tu es un paresseux. Ou tu es négligent. Non, moi je dirais de la négligence. Dieu, s'il vous le disait, peut-être, parce qu'il a vraiment la pédagogie, il dira, mais tu es folle. Les vierges qui n'ont pas d'huile, elles sont comment? Elles sont comment? Elles sont folles. C'est de la folie de ne pas accepter que Dieu nous reprenne. C'est de la folie. Alors, je pourrais déjà peut-être m'interroger avec des gens que j'aime, qui m'aiment. Moi, si vous avez un truc à me dire, franchement, vous pouvez me le dire. Je vous assure que c'est vrai. Ça m'a coûté quelques larmes même. Mais je sais aussi ce que ça veut dire que Dieu change le deuil ou les larmes en allégresse. Alors, on va terminer avec peut-être deux textes, tout simples, pour nous servir de base. Vous avez le psaume 50. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, en terminant le culte, « Seigneur, montre-moi. Tu veux me reprendre et tout mettre sous mes yeux ? J'accepte. » Il y en a qui acceptent ? Moi, je le demande. Je sais que c'est qu'elle a entendu. Alors, dans Galates, au chapitre 7, Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Les mauvais arbres, vous les reconnaîtrez à quoi ? Aux dons ou aux fruits ?» Aux fruits. Un homme, ça ne se reconnaît pas aux dons. Ce n'est pas parce qu'un homme prêche, qui sait prêcher, qui porte du fruit. Le fruit, c'est autre chose. Le don, c'est une chose. Jésus dit, vous les reconnaîtrez aux fruits. Galates, chapitre 5, versets 18 à 21. Il nous est parlé des œuvres de la chair et au verset 22, du fruit de l'esprit. Soyons honnêtes. Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont... Elles sont comment? Évidentes. Ça veut dire qu'on doit les reconnaître. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. On en parlera dans un deuxième temps. Il y a des choses qui sont évidentes. Elles se voient. Moi, que quelqu'un ne vienne pas me dire tout le temps, ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait esprit, j'ai pas vu une fois, deux fois, mais ah, quand même. Elles sont évidentes. la débauche, si vous vivez dans le péché, si vous avez des relations sexuelles hors mariage, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas prêt à rencontrer le Seigneur. Je sais aujourd'hui qu'on enseigne, qu'on n'a pas besoin de se marier, tatati. Si vous vivez dans la débauche, vous n'êtes pas prêt à rencontrer le Seigneur. Ce sont les œuvres de la chair. Écoutez, ça, c'est clair, ça. L'impureté. Alors, moi j'aimerais que chacun, peut-être, nous prenions un dictionnaire. Mais c'est quoi l'impureté? C'est quoi ce qui est impur? Ouais, mais monsieur, vous t'inquiète. Tout est pur pour ceux qui sont purs. On me l'avait dit, ça. Une chrétienne que j'ai repris m'a dit, monsieur Gérard, t'inquiète pas. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ah, mais j'ai dit, mais vous verrez. Elle avait accueilli des garçons dans sa maison. C'était bien ce qu'elle faisait. Et un jour, elle accueille des jeunes filles en même temps. J'ai dit, écoutez-moi, ma sœur, je pense que vous faites une grosse ânerie. Ça va terminer mal. Mais non, monsieur Gros, il ne faut pas soupçonner le mal. J'ai dit, écoutez-moi, ces jeunes, ça va finir mal. Et bien sûr, ça a fini mal. Mais elle m'avait répondu ça. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. La magie, vous savez, ça fait partie des œuvres de la chair. Il y a des gens, ils croient à la magie. Il y a des problèmes qu'ils devraient régler. Ils viennent à l'imposition des mains. Ils pensent que, d'une manière magique, excusez-moi, je vais un peu loin, mais que le Seigneur va régler le problème. Mon frère, ma sœur, si je me suis disputé avec quelqu'un, ce n'est pas l'imposition des mains que ça va se régler. Ça ne va pas se régler d'une manière magique. Si je me suis disputé avec quelqu'un, je vais l'appeler et je vais lui demander pardon. La magie, il faudrait en parler. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à Noël de mettre un petit peu plus dans l'assiette. Ne jouons pas les comédiens. Mais les excès de table, c'est vraiment des excès, bien sûr, réguliers. Et les choses semblables, dont il y a des choses évidentes. Et le verdict est quand même compliqué. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous ne croyez pas qu'avec vos enfants, vous qui avez des enfants petits, vous ne croyez pas que tous les soirs, prendre un mot, vous en avez pour quelques jours, hein? Oh, moi, je ne sais pas faire le culte aux gosses, moi, je n'entends rien. Ah oui, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Et dire, tiens, on va regarder ce que c'est la bienveillance. Tiens, mais avec ma femme, on pourrait peut-être revoir ce mot. On pourrait peut-être le revoir. Éphésiens. Qu'est-ce ce qui attriste le Saint-Esprit? Éphésiens 4, verset 30. Vous savez, ça revient souvent. Moi, je bénis Dieu. Quand Dieu dit, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux, c'est super facile. Hein? C'est super facile. Hein? Mais c'est sûr, comme on l'a entendu tout à l'heure, si on est tout le temps attablé à la table du roi de ce monde, ça va être dur de se nourrir vraiment des choses de Dieu. Car il est écrit, celui qui est rassasié, vous connaissez la suite ? Foule aux pieds le rayon de miel. Quand on est rassasié des choses du monde, notre âme, elle foule aux pieds la parole. On termine avec ce texte. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez qu'on peut l'attrister et même l'éteindre. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, qu'est-ce qui l'attriste ? Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère. Ah, mais ça, c'est mon caractère, je le tiens de ma grand-mère, de ma mère. Ne riez pas, parce que moi, je ne supporte plus ça, moi. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si je me suis mis en colère, est-ce que ça peut arriver ? Oui, je vais demander pardon. Je te demande pardon de m'être irrité. Mes frères et sœurs, que toute amertume, toute colère, toute clameur, c'est quoi la clameur ? Eh bien, je vous laisse le faire. Prenez un dictionnaire. Prenez cette habitude de prendre un dictionnaire. Toute calomnie, ah, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ce qui réjouit le Saint-Esprit, le verset 32. Soyez bons, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, réciproquement, comment il faut le faire ? Ben, vous avez vu comment il a fait ? Tu parles contre ton frère. Vous avez vu le psaume 50 ? Tu parles contre ton père. Alors qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu se tait. Ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. De lire le sermon sur la montagne. De prendre le dictionnaire. Mes frères et sœurs, moi je le fais. Écoutez, je connais quand même, heureusement. Mais je reprends souvent le dictionnaire. Tiens, je vais regarder ce que signifie la clameur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ça vous est déjà arrivé de soupçonner le mal ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de soupçonner le mal chez quelqu'un ?
Ben oui, moi ça m'est déjà arrivé. J'en ai honte.
C'est vraiment, j'ai honte. Heureusement que ma femme me dit, mais Gérard, tu soupçonnes le mal. Je crois qu'un converti, écoutez bien, je me suis converti à 22 ans. Je ne me souviens pas avoir soupçonné le mal en étant un converti.
Parce que j'étais comme ça.
Il a fallu que je devienne chrétien pour, dans des moments, dans des combats, soupçonner le mal. C'est vrai qu'il y a des jours mauvais, qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a des moments difficiles, qu'il y a des grands combats. Mais en fait, ce n'est pas une raison pour continuer. Seigneur, je te demande pardon d'avoir soupçonné le mal. L'autre jour, dimanche dernier, il y a une dame qui m'a appelé. Elle avait été touchée par la prédication. Elle m'a dit, Monsieur Gaud, j'ai parlé mal d'une sœur. Qu'est-ce que je fais ? Je veux être en paix, j'ai perdu la paix. J'ai dit, vous l'avez dit à qui ? Eh bien, à une sœur. Eh bien, demandez-lui pardon. Vous ne l'avez pas dit à la femme en question ? Non, je l'ai dit qu'à une sœur. Eh bien, demandez-lui pardon. Elle a pris le téléphone, elle demandait pardon. Elle a retrouvé la paix. Soyez en paix, les uns avec les autres. Tout le monde s'est fait piéger. Eh bien, si j'ai parlé mal d'Olivier, oui, justement, ouais, à Jonathan, eh bien, je vais dire à Jonathan, je te demande pardon, j'ai parlé mal d'Olivier. Même si c'est vrai. Là, je blague. Mais il y a des choses qui sont vraies, mais il faut faire attention. La médisance, c'est des choses qui sont vraies. Est-ce qu'on est obligé de les dire ? Ça dépend. Est-ce qu'on peut parler d'une... Parce qu'il faut être dans le concret. Est-ce qu'on peut évoquer une situation difficile ? Est-ce qu'on peut évoquer une personne, tiens, tu sais, il y a monsieur Untel, il a fait ça. Est-ce qu'on peut le dire ? Mais on peut le dire dans le but de médire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'il ne faut pas jouer la comédie. Que toute médisance disparaisse. La médisance, c'est des trucs vrais. C'est vrai. J'ai parlé de monsieur Untel. Oui, c'est vrai, il a fait ça, c'est pas bien. On va prier. Mais la médisance, c'est que je le dis dans le but de le salir. Mais après, on peut parler. Soyons pas des comédiens. Faut pas. Ne jouons pas les supraspirituels. Moi, je dis jamais de mal. Mes frères et sœurs, achetez un dictionnaire. De toute façon, il n'y a pas besoin de l'acheter. Tout le monde peut l'avoir par Internet. Ça, c'est une bonne table d'acheter un dictionnaire. Alors, on va lui demander qui nous aide. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Que Dieu m'aide à parler de ce qui a fait obstacle à la prière. Est-ce que vous voudriez qu'en 2019, nous soyons tous des chrétiens justes ? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça vous intéresse ce programme ? Non ? Alors on va lui demander de l'aide. Et je pense que Dieu va nous aider. À celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir mon salut. On lui demande de l'aide et on va terminer en chantant ce vieux cantique. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service. Notre Père, nous te bénissons pour la façon dont tu es pris pour reprendre Pierre, pour reprendre Thomas, pour reprendre les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Merci Seigneur, merci du fond du cœur. Merci pour ta patience, pour ces temps que tu permets, pour mettre sous nos yeux ce qui a besoin de changer. Seigneur, merci. Du fond du cœur, Seigneur. Et si tu veux nous reprendre, bien Seigneur, merci. Nous voulons être à notre place, à la maison. Nous voulons faire comme Daniel, Seigneur. Nous refusons de nous asseoir à la table du roi de ce monde qui veut nous nourrir de choses impures. Nous voulons manger à ta table. Et nous te demandons de l'aide, nous en avons tous besoin, Seigneur. Parce que nous voulons faire la prière du juste, celle qui est efficace dans les églises et dans la maison. Que ton nom soit béni, Seigneur. Aide-nous. Vraiment, Seigneur, tu vois ceux qui diront Amen. Sincèrement, Seigneur, aide-nous à tous pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Jésus. Amen.